C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Bon, le prix de l'essence, il y a comme deux questions qu'on peut poser ce matin. Est-ce que le gouvernement peut faire quelque chose, puis est-ce que le gouvernement doit faire quelque chose pour faire baisser le prix?
Mais je pense que la réponse aux deux, c'est non. Et il faut aller dans le détail pour bien comprendre. Donc, il y a trois possibilités pour faire baisser le coût de l'essence. Contrôler les prix, baisser les taxes, augmenter l'offre. On va les passer une par une. Contrôler les prix, l'idée de Plamondon, mais qui est en cours dans plusieurs pays d'Europe aussi. On va mettre un plafond au prix. Plusieurs experts disent d'abord, il faudrait que tout le monde le fasse ensemble. T'sais, si un pays le fait tout seul dans son coin, mettons le Québec décide de faire ça tout seul dans son coin, ben avec pénurie de pétrole, il y a une pénurie de pétrole. La preuve en est que les prix sont très très élevés. Donc si on est en pénurie de pétrole, il va y avoir une baisse des approvisionnements au Québec, puis une augmentation ailleurs, ça peut pas fonctionner. Mais si tout le monde le faisait ensemble, peut-être que parce que là les prix de pétrole vont pas baisser là. Alors est-ce qu'il peut y avoir un système de taxation ou avec des incitatifs avec tous les pays de l'OCDE, peut-être. Mais bon, c'est pas quelque chose qui va se passer demain matin. L'autre affaire, augmenter l'offre. En ce moment, il y a 9000 puits de pétrole aux États-Unis qui sont fermés. Ils ont les autorisations pour les faire fonctionner, mais ils sont fermés. Pourquoi? Parce que les pétrolières font plus d'argent en ne les exploitant pas qu'en les exploitant. En ce moment, le prix du pétrole augmente de 10 cents par jour. T'as pas besoin de rajouter de l'offre pour t'enrichir, là. Les profits des entreprises pétrolières n'ont jamais été aussi élevés, là. C'est dans le tapis. C'est un record historique. Alors, ils vont pas augmenter l'offre spontanément, là. Mais est-ce que c'est possible de faire augmenter l'offre encore là avec un jeu d'incitatif? Mais là, tu vas te frapper à l'autre problème qui est celui du climat. Est-ce que tu veux augmenter l'offre de pétrole actuellement? Un petit chiffre, là. On consomme 40% plus d'essence aujourd'hui qu'on en consommait en 2013. L'offre a jamais été aussi élevée, là. Alors, une partie de la solution, c'est peut-être la baisse de la demande.
Puis on va en consommer aussi jusqu'en 2040, malheureusement, ouais. Là, parce que l'offre pour le pétrole ne va pas diminuer. Rappelez-vous de la publicité là, de Norman Brathwaite pour Rona. Là, si ça existait, on l'aurait. Alors, c'est un peu ça, là, les prix pétroliers, parce qu'il y a les éléments sur lesquels il y a un marché qu'on ne contrôle pas. Le prix est établi à New York. Puis il y a les éléments sur lesquels on contrôle, sur lesquels on a un peu de contrôle, c'est les taxes. Mais jamais aucun gouvernement ne va s'attaquer directement aux pétrolières. Puis tu fais bien, Luc, de parler des pétrolières parce que les profits, là, c'est... Écoute, j'essaie de trouver le meilleur qualificatif pour traduire notre frustration, là, mais c'est épouvantable. La marge de raffinage, là, par exemple, là, à Montréal, là, on est passé juin 2008 à 9,4 sous le litre et aujourd'hui, 2022, à 48,2 sous le litre. Suncor avait au premier trimestre de 2021 des profits de 821 millions. Premier trimestre de 2022, 2,3 milliards de dollars. Alors, ils s'en mettent plein les poches et pendant ce temps-là, nous, les caves, ah ouais, on paye. Dans le cas du Québec, ce qui est un peu compliqué, c'est qu'il n'y a pas de concurrence. Tu vois, aux États-Unis, il y a un peu de concurrence entre les stations d'essence. Ici, ben, compte tenu du nombre de stations d'essence, il n'y a pas beaucoup, effectivement, de concurrence. Politiquement, la pression va devenir de plus en plus grande pour le gouvernement. Économiquement, l'essence, l'augmentation de l'essence a un impact sur les prêts à la consommation. On le voit déjà, là, un taux d'inflation de 16,8%. Puis socialement parlant, ça crée énormément de stress, d'anxiété. Il y a des gens qui ont commencé à changer leurs habitudes. Évidemment, ils prennent moins leur voiture, ils font le plein... ils font le plein à moitié parce que ça coûte très, très cher. Alors, quand tu regardes ça, mais tu dis...
C'est vrai que deux fois 20 piastres, c'est quand même la même chose qu'une fois 40 piastres.
Non, mais pas, Paul, Luc, je te dis, il y a des gens qui, plutôt que faire le plein, ça coûte... Ben, un plein maintenant, toi, t'as pas de voiture, mais c'est 100 piastres en montant là, pour une voiture. Fait que t'en mets 50 plutôt que t'en mets 100 parce que tu dis, écoute... Alors, les solutions à court terme, il y a l'envoi du chèque. François Legault nous l'a promis, mais je suis pas certaine que ça crée tant de sympathie que ça dans le public. Diminuer les taxes temporairement. Ça, c'est la solution, entre autres, d'Éric Duhaime, du Parti conservateur.
Bernard Landry avait dit une chose.
Ouais.
Parce qu'il a été confronté à ça, lui.
Tous les gouvernements ont été confrontés à ça.
Il m'a dit, on est convaincu que demain, on baisse la taxe de 5 sous le litre. La pétrolière va l'avaler.
C'est clair.
Ouais, mais c'est
ce que c'est pas vrai qu'ils vont laisser aller le Saint-Saëns comme
mais
ça, ils vont le récupérer.
Mais Paul, c'est ce que disent aussi les experts, sauf qu'en Alberta, ils ont baissé les taxes. C'est ça. Et les pétrolières n'ont pas occupé cet espace qui est devenu disponible du jour au lendemain. C'est une espèce de pari risqué. Remarque que dans la situation actuelle, je pense que, puis le ministère des Finances au Québec, je suis convaincue, a établi toutes sortes de scénarios, qu'on a fait toutes sortes de scénarios pour voir quelle est la marge de manœuvre dont dispose le gouvernement.
Mais en France, c'est une chose, c'est que...
Mais c'est une ristourne.
Oui, c'est ça. Ils remboursent la compagnie pétrolière, ils plafonnent à la pompe, donc le consommateur paie moins cher. Mais le gouvernement Macron fait un chèque aux compagnies.
Mmh, absolument. Mais je voulais justement commenter là-dessus, mais Nathalie, est-ce que tu as terminé?
Oui, oui, vas-y.
Ben, plusieurs choses. Quand tu dis que les pétrolières vont l'avaler, quand le litre était à 1,70 $, on a évoqué la possibilité de baisser les taxes. Mais regarde la baisse de taxes que ça fait. T'as 19 sous de taxes, 3 cents pour la 10 cents de taxes d'assises, puis 3,2 cents de taxes carbone. Fait 32 cents à Montréal, 29 à peu près ailleurs dans le reste du Québec. À 1,70 $, t'as enlevé ces 30 cents de taxes-là. Ben, ça aurait coûté 1,40 $, mettons. Mais on l'a mangé complètement, le 1,40 $. On est rendu à 2 et quelque chose. Donc, effectivement, les pétrolières vont... Pourquoi d'ailleurs? Parce que si tu baisses la taxe, tu pousses les gens à consommer plus. Si tu consommes plus, comme on est en pénurie, les prix augmentent. Ben, c'est ça, là. Puis Jean-Thomas Bernard a bien expliqué ça à travers le monde. Tu sais, de baisser les prix alors que tout le monde en veut, ça veut dire que les gens vont en consommer plus. T'en consommes plus, t'as un nouveau déséquilibre entre l'offre et la demande, les pétrolières vont aller chercher cet argent-là.
Mais il n'y a aucune solution qui fait l'unanimité et le panier de solutions est pas très, très... Il n'y a pas tellement de solutions qui s'offrent au gouvernement. Le chèque, le François Legault dit, ben écoutez, il va être moindre que ce qu'on a offert jusqu'à maintenant, mais au moins, ça va permettre de soulager un peu les consommateurs. Quand tu parles de diminuer les taxes, certains lèvent la main en disant, ben moi, j'ai mon entreprise et je peux déjà demander un remboursement de mes taxes. Donc, la diminution des taxes n'aura pas d'effet sur mon entreprise, ouais. Effectivement. Alors, il n'y a pas de solution parfaite. Et s'immiscer dans un marché... Qui est dicté par l'offre et la demande. Je ne crois pas qu'il y a aucun gouvernement, en tout cas, je ne crois pas que le gouvernement actuel au Québec va le faire. On a tenté de le faire au Nouveau-Brunswick en établissant un prix plafond. Mm-hmm. Ça a donné des résultats mitigés. Alors, d'une certaine façon, on est baisé. On est baisé parce que on a besoin de l'essence pour fonctionner. On est dépendant des pétrolières. Puis le gouvernement ne veut pas surtaxer les profits indécents des pétrolières.
Mais Nathalie, je voudrais revenir là-dessus. Quand on dit qu'on est dépendant des pétrolières puis qu'on a besoin de l'essence, je comprends bien. Là, aujourd'hui, tu peux pas vendre ta voiture qui consomme 10 litres au 100 ou plus que 10 litres au 100 pour en acheter une à 6 litres au 100. D'abord, il y en a pas. Mais collectivement, depuis 2013, on a augmenté de 40% notre consommation d'essence.
Oui.
Il y a pas eu une augmentation de 40% de la population là. On a augmenté la taille et le poids des véhicules et le nombre de kilomètres parcourus.
Oui, mais les VUS sont plus économiques que jamais, mon cher Luc.
Ils le sont, mais on a augmenté de 40% de consommation d'essence collectivement.
Mais c'est pas juste en transport, parce que sur le plan économique, notre économie fonctionne à plein régime pratiquement.
Oui, mais là, je parle de l'essence, je parle pas de l'énergie. Donc, on a... Bon, en moyenne, là, je disais encore dans un autre article, excuse-moi, je n'ai pas la source sous les yeux, là. On a des véhicules qui, en moyenne, consomment 10 litres au 100. En moyenne, ça veut dire que les véhicules à 6 litres au 100, on les a boudés, là. Qu'est-ce que tu veux, c'est de même? Dans les files d'attente, là, tu passes à côté de quoi? Tu passes à côté des véhicules. Oui, ils ont une meilleure consommation d'essence qu'avant, mais ils sont plus gros, plus de volume, donc plus de résistance au vent. Fait qu'en bout de ligne, ils consomment. On n'a pas des, on ouais, mais, pas des mais, petits véhicules.
Mais je comprends, mais la lutte aux VUS, Luc, là, c'est le combat qu'a choisi de défendre. Équitable, par exemple, c'est beau le dire, mais en même temps, les disponibilités, les VUS sont populaires sur le marché.
Oui, je sais. Mais sauf que la crise du pétrole, là, est pour les 20-30 prochaines années, la crise du pétrole est devant nos yeux. Là. Elle va pas tomber à la rentrée scolaire. Là. La crise du pétrole, c'est 20 ans devant nous. Fait que pour 20 ans
qu'est-ce que tu veux
nous,
dire, la crise du pétrole, c'est
ça veut dire
c'est
que
le prix élevé.
Le prix élevé, l'inadéquation entre l'offre et la demande, c'est pour les 20 prochaines années. Alors, commençons à se dire, ben, qu'est-ce que tu veux, il va falloir qu'on baisse la demande.
Mais je me souviens, tu l'as connu, Claude Béchard, qui était ministre et qui, un jour, a décidé qu'il partait après compagnie pétrolière. Il est revenu assez vite en constatant que ne fait pas faire grand-chose. Bon, la régie, là, puis tu mets un prix plancher, puis tu essaies de...
Mais... Si les gens pensent que Gary Bettman, il est tough, là, les pétrolières, c'est autre chose.
Je me souviens, il était venu en studio, on avait eu une longue discussion là-dessus, parce qu'on était dans des prix encore élevés, puis c'est toujours la même affaire. Quand le prix du brut baisse, il monte la marge. Puis quand la marge est bien élevée, whoop, le prix, ce qui fait qu'il engrange des profits. Puis il m'avait dit, écoute, t'es la juridiction du Québec, quand même, tu voudrais faire quoi que ce soit. L'Ontario fait rien, les Américains font rien.
Puis le prix est établi à New York.
T'as rien à faire.
Il y a un truc peut-être, c'est que la taxe, les taxes d'assises puis carbone, tout, ce ne sont pas des taxes ascenseurs. La taxe, la TPS, la TVQ sont des taxes ascenseurs.
Oui,
donc
mais...
plus ça coûte cher, plus le gouvernement ramasse des taxes. Alors, est-ce qu'une partie de ces taxes-là pourrait être redonnée à des consommateurs en particulier, pas à tous les consommateurs, à certains consommateurs?
Temporairement, effectivement.
On s'arrête là-dessus. Après, on parle de ce sondage léger commandé par la CAQ sur les Québécois et l'immigration.
La commission Normando-Ferrandaise.
Bon, il y a beaucoup de choses à dire sur le sondage léger commandé par la CAQ concernant l'immigration, l'identité. Les Québécois qui ont l'air de dire, ben, 50 000, c'est le nombre maximum, on n'en veut pas plus, puis ce qui nous fait peur, ce sont des immigrants qui ne parlent pas français, donc pour la protection de la langue. Alors, quand les Québécois sont contre une augmentation des seuils d'immigration, c'est une bonne idée, est-ce qu'ils ont raison d'être craintif à ce point-là, Nathalie?
Mais moi, je suis pas étonnée du résultat. Je trouve que les Québécois ont une vision plutôt pragmatique de l'immigration. C'est-à-dire que on n'est pas contre l'immigration. Par contre, on pense que 100 000 immigrants par année, c'est trop. Mais quand je parle de vision pragmatique, les gens se disent, ben, avant d'accueillir nos immigrants, il faudrait s'assurer effectivement qu'il y ait des services de garde disponibles. Luc, c'était ton cheval de bataille. Tu as souvent parlé d'accès au logement. Alors, les Québécois ont un peu cette même vision de dire, ben oui, c'est beau, là, mais nous, pendant que notre enfant a pas de place en garderie, comment on peut permettre à des immigrants d'avoir accès à des places qui n'existent pas? Deuxièmement, ce qui me rassure, parce que je trouve qu'il y a une contradiction dans le sondage, on dit que pour 42 % des répondants, le nombre d'immigrants élevés qui ne parlent pas français constitue une menace, mais en même temps, qu'elle devrait être dans l'ordre des principaux critères pour sélectionner un immigrant. Et là, les qualifications sur le marché du travail arrivent avant la connaissance du français. Et moi, je n'achète plus cet argument en 2022 que les immigrants sont une menace aux Français. Je trouve que c'est démagogue d'utiliser ce genre d'argument parce que, compte tenu du contexte lié à la pénurie de travailleurs, qu'on le veuille ou non, une des solutions pour contrer la pénurie de travailleurs repose sur l'immigration.
Luc, plusieurs choses. D'abord, Environix fait des sondages sur les immigrants depuis longtemps. Moi, je suis remonté en arrière pour voir les réactions des Québécois et des Canadiens depuis des années. Et ce qui est frappant, c'est que lorsque tu demandes, quand Environix a posé des questions sur la perception des immigrants. Or, contrairement à tout ce qu'on peut penser, la perception des immigrants est meilleure au Québec que dans le reste du Canada. Il y a des éléments qui inquiètent, mais quand même, regarde, est-ce que les immigrants sont bons pour l'économie? 79 % des Québécois et des Canadiens pensent que oui. Donc c'est bien, près de 80 %. OK, là, il y a eu des craintes. N'adopte pas nos valeurs, c'est 50 % dans le Québec et le Canada. Donc, on voudrait que les immigrants adoptent plus les valeurs canadiennes. Coûte trop cher en aide sociale. 42 % au Québec, 47 % au Canada. Donc, moins de 50 % puis moins au Québec que dans le reste du Canada. Y a-t-il trop d'immigrants? 30 % au Québec, 35 % au Canada qui pensent ça. Donc, en gros, première chose à dire, c'est que cette idée-là selon laquelle les Québécois seraient réfractaires à l'immigration par rapport au modèle canadien multiculturel qui, lui, serait beaucoup plus ouvert, est fausse. D'ailleurs, quand on regarde dans les détails, il y a beaucoup plus d'acceptation de l'immigration à Montréal qu'à Toronto. Et en fait, il y en a plus à Montréal que dans les régions québécoises, et les régions québécoises ont à peu près le même taux d'acceptation que Toronto, qui est une grande métropole, et donc qui devrait être plus habitué à l'immigration. Alors, première chose qu'on règle tout de suite, là, ce n'est pas de... Il y a une part de crainte, là, quand tu dis qu'il y a 50 % que des Québécois, des Canadiens qui pensent que les immigrants n'acceptent pas nos valeurs, il y a une part de crainte. Mais cette idée-là, d'abord, l'idée 1, les Québécois, c'est pas juste ce n'est pas du racisme. Et l'accueil des immigrants a déjà été différent. Quand tu recules dans les années pré-crise du logement, pré-crise de tout, là, en fait, logement, inflation, place en CPE, etc., il y a plus d'accueil, il y a plus de volonté d'accueil des immigrants dans ces périodes-là. Alors, il semblerait que les Québécois auraient une certaine intelligence de la situation en disant, en ce moment, c'est pas le temps.
En ce moment, c'est pas le temps, mais pas pour des raisons liées à l'identité. Moi, je pense que c'est plus pour des raisons liées, de pragmatisme, d'accès au logement, d'accès aux services de garde. Tu vois, selon les chiffres du ministère des Migrations, en 2020, la proportion d'immigrants qui connaissaient le français était de 60 %. 60 % c'est quand même très bien, surtout que le Québec a la capacité de sélectionner 70, 72 % de ses immigrants. Fait que le volet identitaire ou connaissance du français, on a quand même un assez bon contrôle là-dessus. L'autre chose, moi, je pose la question, si on veut pas augmenter les seuils d'immigration, parce qu'il y a un débat en soi sur les seuils d'immigration, le PLQ dit que ça prend 70 000, le Conseil du patronat dit que ça prend que 80 100 000, puis le gouvernement dit, ben non, pas plus que 50 000. Il y a quand même une réalité qui parle. D'ici 2026, là, il va y avoir 1,4 million d'emplois à pourvoir. Puis là-dessus, le conseil du patronat dit 78 % vont pouvoir être pourvus par de la main-d'œuvre locale. Donc, il y aura quand même 400 000 emplois qui pourront pas être pourvus. Et c'est pour ça que le CPQ dit ben 100 000 immigrants de 80 à 100 000 par année d'ici les quatre prochaines années.
Mais moi, je dis,
on répond comment à ça? Parce qu'il y a des entreprises...
Comment on répond comme le CIUS des îles de la Madeleine? As-tu lu ça?
Oui, qui vont se lancer dans le résidentiel.
Puis c'est une solution qui existe partout. Là. À Paris, il y a beaucoup d'entreprises qui ont leur parc de logement, font construire un parc de logement pour attirer les gens. Alors, arrêtez de dire on veut 100 000 immigrants, on veut 100 000 immigrants, on veut 100 000 immigrants, le reste vous arrangera avec. Non, commencez à vous impliquer un petit peu. Là. Lâchez un petit peu le département communication, pression, lobby, là, puis mettez-vous dans les vraies solutions.
Ah, mais le 6, c'est en Gaspésie, aux Îles-de-la-Madeleine, c'est une petite communauté. Penses-tu que le 6 de l'ouest de l'île peut se lancer dans une...
Va bien falloir.
Dans une business comme celle-là, excusez l'anglicisme.
Michel Leblanc, tu sais, le grand animateur des consensus des gens d'affaires montréalais qui est en avant de la parade. On veut plus d'immigrants, on veut plus. C'est un homme intelligent, c'est un homme de capacité de savoir, ça. Mets-toi en mode solution. Mais amène-en des solutions.
Mais la solution, c'est faire comme les îles, c'est-à-dire.
C'est ça la solution.
Un immigrant clé en main.
Oui, ben c'est non, pas tout à fait, mais un immigrant avait une sorte d'adéquation entre le logement puis l'immigration.
Mais Luc, quand même, il y a beaucoup d'employeurs qui offrent déjà un logement aux personnes immigrantes. Il y a 50 nuances là, dans ce dossier-là.
Mais t'as raison, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils débarquent sur le plateau Montréal parce que c'est ça, c'est exactement ce qui se passe. Là. Sais-tu combien ils payent les logements sur le plateau Montréal, les agences qui veulent louer pour des immigrants temporaires?
1800, 2000, 2500. 4000 par mois?
4000 par mois.
4000 par mois.
Peux-tu dire qu'il ne reste pas grand monde qui peut concurrencer contre ça? Mais c'est pas ça la solution. La solution, c'est de construire.
Oui, mais tu feras pas ça du jour au lendemain, on s'entend. Sauf que on revient au débat du départ, c'est-à-dire le seuil acceptable, quel est-il? C'est 50 000, c'est 70 000, c'est 80, c'est 100 000. La CAQ dit 50, le PLQ dit c'est 70, le CPQ dit c'est peut-être jusqu'à 100, fait que ça doit être quelque part entre tous ces chiffres-là, ouais, effectivement.
Ouais. Peux-tu rajouter quelque chose sur deux éléments positifs? Premièrement, les visions négatives contre les réfugiés puis les migrants qui volent des jobs est constamment en diminution. Donc, elle n'est pas complètement disparue, là, puis il faut continuer de travailler dessus. Mais il y a 30 ans, 3/4 des Canadiens considéraient que les demandeurs d'asile, c'était illégitime. Puis aujourd'hui, c'est juste un tiers. Donc, il y a une.
Mais ils sont quand même 60 % qui demandent dans le sondage à ce que le chemin Roxham soit fermé.
Oui, le chemin Roxham, en fait, parce que c'est pas des réfugiés, c'est des migrants. Mais les réfugiés, il y aurait un exceptionnalisme canadien parce que dans les autres pays, en particulier la France, la vision de l'immigration, l'Angleterre aussi, la vision de l'immigration est extrêmement négative par rapport
à. C'est deux mondes.
Oui, vraiment.
Mais ici, effectivement, on a la réputation d'être quand même une société assez accueillante. Mais dans le cas du chemin Roxham, lorsqu'on dit on veut 60 % des répondants veulent que le chemin soit fermé, ils sont pas contre les demandeurs d'asile, mais ils souhaitent que ça
soit un peu plus régularisé.
Exactement, que ça se fasse moins dans le chaos, plus correctement.
Merci, et moi je me pose demain, puis je reviens mardi.
Oh,
ah oui, écoute, ça se mérite.
Ouais, 40 ans derrière le micro. Hein.
Faire une petite escapade comme ça.
C'est 23.